Chers auditeurs, en même temps qu'il annonçait sa démission à ses diocésains, Mgr Lacroix leur révélait le nom de son successeur. Monsieur l'abbé Ducellier, vicaire général de Bayeux, était nommé évêque de Bayonne par le gouvernement et le Saint-Père le confirmait dans sa charge le 15 juillet 1878. Il reçut la consécration épiscopale le 24 septembre 1878 des mains de Mgr Hugolin, évêque de Bayeux. Mgr Ducellier avait été bien préparé à l'administration d'un diocèse. Toute sa vie sacerdotale, il l'avait passée dans les bureaux d'un évêché. Il se présentait lui-même dans la lettre pastorale qu'il adressait à ses diocésains à l'occasion de son entrée à Bayonne. Il est vrai que dès notre entrée dans la carrière sacerdotale, nous avons eu le bonheur d'être initiés au travail délicat et difficile de l'administration d'un diocèse. Nous avons, avec des collègues bien-aimés, dépensé 20 années de notre vie dans cette tâche modeste, mais qui suffisait à nos désirs. Mgr Ducellier fit son entrée dans sa ville épiscopale le 10 octobre suivant. Une foule immense emplissait les rues qui avaient été magnifiquement ornées. Ce fut une journée inoubliable qui se prolongea tard dans la nuit. Le chroniqueur de la semaine religieuse écrivait « Dans la soirée, comme si ce beau jour ne pouvait sitôt finir, la nuit semblait devoir avoir reculé devant cette splendide illumination qui enveloppait la cité d'un manteau de flammes. C'était un coup d'œil vraiment féerique et la fête de nuit a brillamment clôturé cette journée qui comptera dans les annales de Bayonne. » L'arrivée de Mgr Ducellier à Bayonne coïncidait avec l'ouverture d'une période qui va de 1879 à 1890, au cours de laquelle l'Église de France va connaître bien des déconvenues à propos des congrégations religieuses et à propos de l'école. À partir du 16 mai 1877 et des élections qui suivirent la dissolution de la Chambre des députés par Mac Mahon, la République va se renforcer dans le pays et s'orienter vers un affrontement violent avec l'Église par monarchistes et conservateurs interposés. Les partisans de la République avaient bien conscience que cette consolidation ne pouvait se faire à long terme que par la prise en main de l'éducation des enfants et des jeunes, afin d'en faire de bons républicains. Des manuels mieux adaptés seront tout d'abord mis entre les mains des enfants, ce qui va soulever des protestations de la part des évêques en raison du contenu de ces ouvrages. De plus, l'efficacité de cette politique exigeait qu'on éloigne des écoles les congrégations religieuses, en particulier les jésuites. Il fallait leur arracher l'âme de la jeunesse française. Un projet de loi fut présenté par Jules Ferry pour interdire la Compagnie de Jésus. Un autre projet concernait l'enseignement et contenait un article 7 qui allait provoquer une levée de boucliers. Nul n'est admis, disait cet article 7, à diriger un établissement d'enseignement public ou privé, de quelque sorte qu'il soit, ni à enseigner s'il appartient à une congrégation non autorisée. Or, en France, au moins 500 congrégations n'avaient jamais reçu l'autorisation officielle et la mesure concernait 20 000 enseignants. La loi sera adoptée par la Chambre des députés, mais le Sénat repoussera l'article 7. La plupart des congrégations n'avaient jamais obtenu cette autorisation, ni même l'avaient demandée. Deux décrets du gouvernement vont intimer aux jésuites l'ordre de se disperser et aux instituts religieux celui de se mettre en règle avec la loi avant le 29 juin 1880. Seules les congrégations d'hommes étaient visées. Par solidarité avec les jésuites, aucune congrégation ne demanda l'autorisation. Le 16 juin 1881, l'enseignement primaire public était déclaré gratuit, ce qui désavantageait l'enseignement privé qui demeurait payant. une nouvelle loi fut présentée à la Chambre des députés qui prévoyait la fréquentation obligatoire de l'école et la suppression de l'enseignement religieux dans les programmes scolaires. Après des débats passionnés, elle fut adoptée par les deux chambres et publiée le 29 mars 1882. À son arrivée dans cette atmosphère agitée par les passions partisanes, on était curieux de savoir où il fallait ranger le nouvel évêque. Il prit soin de le révéler lui-même dans la lettre pastorale que nous avons citée déjà. « Nous voulons, comme le Christ, nous montrer le débiteur de tous, prêcher la paix, l'union, la charité, nous efforcer de faire aimer et respecter notre sainte religion, comme nous prêchons le respect de l'autorité, l'obéissance à la loi. » Et il ajoutait à l'adresse de ceux qui voulaient trop vite le cataloguer, « Si donc, notre cher frère, vous étiez tenté quelques jours de nous demander de quel parti nous sommes, n'attendez pas de nous d'autre réponse que celle de votre compatriote Saint Vincent de Paul, aussi grand citoyen qu'il fut grand saint, je suis du parti de Dieu et des pauvres. » Ce fut en effet le parti qu'il prit et qu'il tint durant son épiscopat. Soucieux surtout de favoriser et de faire progresser la vie chrétienne de ses diocésains, il prit dans les controverses de son temps une attitude modérée et conciliatrice, suivant en cela l'exemple du pape Léon XIII, qui, dans ses interventions, cherchait à atténuer les oppositions et à trouver des compromis. Le préfet de Pau transmettait consciencieusement à Paris les faits et gestes du nouvel évêque de Bayonne. Dans un rapport à son ministre de tutelle, il écrivait « C'est un homme distingué d'esprit et de manières, modéré de caractère, très instruit et bon administrateur. » On peut penser qu'une partie du clergé, surtout celui du Pays Basque, ne comprenait pas très bien l'attitude de son évêque, ni sans doute les conseils qu'il prodiguait à ses prêtres, en particulier dans son instruction pastorale sur quelques dangers de leur présente, le 8 février 1882. À cette date, la loi sur la suppression de l'instruction religieuse était sur le point d'être définitivement adoptée. Ce que Mgr Ducellier préconisait, c'était la vigilance. Pour lui, elle était une des conditions de la vie chrétienne. « Quand les pièges se multiplient, écrivait-il, devant les pas de ceux qu'on oserait attaquer en face, ce n'est pas d'intrépidité qu'il convient de parler, c'est de vigilance, de la vigilance qui découvre les ruses et se soustrait aux embûches. Parmi les périls les plus menaçants, Monseigneur diagnostiquait la mauvaise presse et le prosélytisme des sociétés secrètes. » On était loin des joutes oratoires de la Chambre des députés et des polémiques qui bouillonnaient dans la presse. En fait, Mgr Ducellier visait les idéologies peu chrétiennes qui les sous-tendaient toutes et qui risquaient de contaminer l'esprit et le cœur des fidèles. Nous verrons la prochaine fois l'attitude de Mgr Ducellier devant la politique scolaire du gouvernement et celle qui intéressait les congrégations.